Radio Prague, les informations.
Selon Jan Fischer, la sécurité énergétique est aussi importante que la défense. Havel soutient les Verts aux prochaines élections. Le restaurant Allegro conserve son étoile au Michelin. Et en tennis, Nicole Vaidichova met vraisemblablement fin à sa carrière. Bonsoir. La sécurité énergétique est pour la diplomatie une tâche comparable à la défense. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Jan Fischer lors du 10e congrès énergétique de la République tchèque qui s'est tenu ce mardi. Concernant la politique énergétique nationale, il est utile, selon le Premier ministre, de déterminer des orientations sur le long terme et de mettre en place des règles. Jan Fischer a aussi exprimé son soutien à une politique énergétique commune européenne pour empêcher les cas de chantage, les pénuries et les coupures de livraison qui pourraient être fatales. Il a également rappelé que les grandes orientations qui doivent être prises sur la politique énergétique doivent aller bien au-delà d'un mandat électoral. L'ex-président Václav Havel a annoncé qu'il soutiendrait le parti des Verts lors des prochaines élections législatives. Il a présenté ce mardi une lettre intitulée « Nous votons pour les Verts ». Le président est appuyé dans sa démarche par une dizaine d'intellectuels tchèques. Il était accompagné notamment de l'écrivain Ivan Klima, de l'acteur Tomáš Hanák et du pasteur évangélique Svatopluk Karasek. Selon l'ancien dissident, les Verts, contrairement aux autres partis, ne sont pas impliqués dans des affaires de corruption. Ils n'entraînent pas le pays dans de graves problèmes économiques, ne participe pas à l'augmentation du déficit public et n'entrave pas la liberté de la presse. D'après les récents sondages, les Verts ne sont pas sûrs de dépasser les 5%, leur permettant d'être représentés à la Chambre des députés. Pour le président tchèque Václav Klaus, l'économie tchèque renoue progressivement avec la croissance et sans intervention spécifique de l'État. Néanmoins, il est important de combler le trou des finances publiques pour ne pas tomber dans le piège de l'endettement. C'est ce qu'il a exprimé au forum de Jofin à Prague, qui rassemble chaque année des hommes politiques, des économistes et autres spécialistes qui viennent débattre des grands enjeux politiques et sociaux. Le maire de la ville de Prague, Pavel Bém, a fait savoir ce mardi que la réglementation très stricte sur les limitations de vitesse dans la capitale sera à nouveau assouplie. Bém a estimé que certaines limitations de vitesse à 50 km par heure peuvent être considérées comme dénuées de sens. L'objectif de l'instauration de ces restrictions était de réduire le bruit provoqué par la dense circulation automobile sur certaines de ces artères, notamment sur la rue du 5 mai, une trois voies surnommée la magistrale qui traverse Prague du nord au sud. La mesure établi le 1er janvier dernier est particulièrement impopulaire, ce qui joue en défaveur du Parti civique démocrate, le parti de Pavel Bém, aux prochaines élections. Le restaurant Allegro dans l'hôtel des 4 saisons a défendu avec succès son étoile dans le prestigieux guide gastronomique Michelin. Allegro avait obtenu sa première étoile en 2008 et il était le premier restaurant d'un pays issu du bloc communiste à être récompensé par ce guide qui fait office de référence dans le monde de l'art culinaire. Et selon le serveur internet tennisreporter.net, la joueuse tchèque de tennis Nicole Vaidichova, ancienne 7e mondiale et 2 fois demi-finaliste d'un tournoi du Grand Chelem, aurait mis un terme à sa carrière. Enfin, la météo mercredi, le ciel en République tchèque sera nuageux à couvert avec de la pluie ou des chutes de neige localement. Les températures maximales se situeront entre 4 et 8 degrés et pendant que les Irlandais fêteront la Saint-Patrick, ce 17 mars, les Tchèques fêteront les Vlastimil. Voilà, c'était le bulletin d'information présenté par Anne-Claire Beluire.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Une famille rome a été attaquée au cocktail Molotov. Cette fois-ci, l'incident n'a pas eu de conséquences tragiques. Nous vous donnerons quelques détails sur cette sombre affaire avant de vous inviter dans la ville de Kladno, près de Prague, qui accueille les journées françaises. Et pour finir, nous céderons la parole au ténor mexicain David Lomeli, qui se présente actuellement à Prague. Moins d'un an après l'incendie criminel de la maison d'une famille rome dans la ville de Vítkov, dans la région de Opava, qui avait grièvement brûlé une fillette de 2 ans, une nouvelle agression semblable a eu lieu pendant le week-end écoulé dans une des localités défavorisées de la ville de Ostrava, dans le nord du pays.
Nepřijatelné, otřesné, šílené. Já prostě jsem přesvědčen, že to jsou prostě akce, které do normální společnosti nepatří.
Inadmissibles, horribles, fous, ce sont des actes qui n'ont pas leur place dans une société normale. C'est par ces paroles que le Premier ministre Jan Fischer a réagi à l'information publiée lundi par la police et annonçant que des cocktails Molotov avaient été à nouveau lancés en pleine nuit sur une habitation rome. Tandis que le précédent incident a causé des brûlures au deuxième et troisième degré sur plus de 80% du corps de la petite Natalka et complètement détruit la maison, cette dernière attaque n'a causé que peu de dégâts. Par un heureux jeu de circonstances, une jeune fille de 14 ans qui se trouvait dans la chambre touchée a réussi à se comporter avec sang-froid et empêcher le déclenchement d'un incendie dévastateur. Les interrogations et l'inquiétude que l'incident a suscité n'en demeurent pas pour autant moins fortes. L'enquête sur l'incident est menée par les membres de la police criminelle et des experts qui avaient déjà travaillé sur le cas de la famille rome de Witkoff. En cherchant une piste, les enquêteurs refusent toute spéculation prématurée sur les motifs de cet acte, comme le confirme le chef de la police d'Ostrava, Radovan Vojta.
Pour l'instant, nous ne disposons pas d'informations soutenant l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'une action organisée et ayant des motifs nationalistes ou extrémistes.
Après un premier réflexe de mobilisation, les habitants de la colonie de Bedřiška, qui compte une soixantaine de baraques en bois, déclarent désormais faire pleinement confiance à la police. La peur et les doutes ne semblent pas cependant les avoir quittés, tout comme leur volonté d'autodéfense. Ce dernier cas d'agression d'une famille rome par un cocktail Molotov est le 14e dans la série de ceux qui ont été commis dans le pays depuis 1994 et le 4e perpétré en l'espace d'une seule année. Le procès des 4 extrémistes accusés de l'acte criminel d'avril dernier à Witkoff et qui a eu des conséquences tragiques commencera le 11 mai prochain. Du 15 au 28 mars, la ville de Kladno en Bohême centrale, située à une vingtaine de kilomètres de Prague, se met à l'heure française. Organisée par le club franco-tchèque de la ville, les journées françaises de Kladno offrent à ses habitants une série de manifestations culturelles. Milena Cherna du club franco-tchèque de Kladno en détaille le programme au micro d'Anne-Claire Veluire.
Le club franco-tchèque de Kladno prépare déjà pour... sixième fois cette année nos journées françaises qui présentent le travail de notre club et qui présentent aussi l'amitié et la collaboration entre la ville de Kladno et la ville qui est jumelée avec Kladno, c'est Vitry-sur-Seine. Nos journées françaises commencent par l'inauguration de nos journées en présence des représentants de la ville de Kladno et de l'Institut français. Et après, on va réaliser le vernissage qui s'appelle Biodiversité, qui présente des photographies sur le thème de la beauté et de la variété des organismes vivants sur la Terre. C'est dans le cadre de l'année internationale de la biodiversité. Après, dans notre programme de nos journées, il y a deux concerts d'une formation musicale dirigée par David Pajot, qui présente des chansons au parfum mystérieux venant d'anciennes légendes bretonnes. Notre club a préparé quelques soirées du cinéma français. On peut voir 3 films. Un homme et son chien, avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle le plus cru de sa carrière, on peut dire. Après, c'est le film qui s'appelle Coco Chanel. Et le petit Nicolas, c'est le film pour les familles et leurs enfants. Notre club collabore depuis longtemps avec le théâtre municipal de Kladno, qui propose une version au goût du jour de la célèbre pièce de Molière. Ce que je ne peux oublier, ce sont les journées portes ouvertes de notre club où le public de Kladno peut regarder ou participer au cours du français. C'est la dernière poste. On peut mentionner aussi la gastronomie française au restaurant qui s'appelle La Vieille Kladno, au centre de Kladno.
Une question, vous m'avez dit que les journées françaises de Kladno existent depuis 6 ans. Qui en a eu l'initiative? C'est le club franco-tchèque de Kladno?
Oui, c'est notre initiative, en collaboration avec la mairie, bien sûr, parce que, comme j'ai dit, c'est elle qui se jumelle depuis plus de 40 ans avec Vitry-sur-Seine à Paris.
Puisque ça fait 6 ans que vous organisez ces journées, est-ce que les habitants de Kladno répondent présents à toutes les activités que vous leur proposez?
On peut dire que les citoyens s'intéressent. C'est le cinéma, les films qui attirent l'attention des gens. C'est le théâtre aussi. Et on attend aussi l'intérêt du vernissage de l'exposition de biodiversité qui est organisée au château de Kladno.
Jusqu'ici donc, Milena Cerna du club franco-tchèque de Kladno. Pour plus de détails sur le programme de ces journées, vous pouvez consulter le site internet de la ville www.kladno.cz. C'est ce mercredi que le ténor mexicain David Lomeli donnera un récital à l'Opéra d'État de Prague. Cet artiste, qui se présente comme garçon venu du désert mexicain, semble promu à une brillante carrière. C'est la première rencontre de ce ténor de 28 ans avec le public de Prague. Václav Richter.
David Lomeli sera accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Bohême du Nord, placé sous la direction de Charles Olivieri Munro, et il a invité à participer à son récital la chanteuse Eva Horniakova du Théâtre National Slovaque de Bratislava. Lors d'une conférence de presse, le jeune chanteur a présenté lui-même le répertoire de son concert au micro de notre collègue de la section espagnole, Gonzalo Núñez.
Hago mucho el repertorio del lírico.
C'est donc essentiellement pour une moitié des airs classiques, pour l'autre moitié des airs de Zarzuela. Je fais beaucoup le répertoire lyrique, comme Rigoletto, La Bohème, L'Élixir d'amour, Faust. Nous avons préparé aussi 3 airs spéciaux de Zarzuela, un air fantastique est tiré de l'opéra Luna de José María Cano, du groupe Mecano. C'est basé sur la chanson Hijo de la Luna, mais José María Cano en fait plus tard un opéra. C'est une musique très passionnée et très avenante. Voilà, c'est donc en somme ce que nous allons présenter, mais nous avons aussi préparé quelques petites surprises pour les rappels. Je suis très ému de pouvoir chanter ici avec Eva et Charles.
Et bueno, muy emocionado de cantar aquí con Eva y con Charles.
La tournée de David Lomeli s'inscrit dans le cadre des célébrations du bicentenaire de l'indépendance du Mexique et du centenaire de la Révolution mexicaine. Devant les journalistes pragois, le chanteur s'est présenté aussi comme un ardent patriote qui désire faire connaître son pays dans le monde.
Todo este año en México y los mexicanos afuera.
Oui, toute cette année, nous les Mexicains fêtons le bicentenaire de l'indépendance du Mexique. Et comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, le centenaire de la Révolution qui nous a fait un peu plus libres d'une certaine manière. Je suis très ému de faire partie de quelque chose, de mon pays. J'ai été frustré de ne pas avoir fait de carrière sportive parce que mon rêve était de représenter mon pays dans la sélection nationale pour le mondial. Et je suis très content de pouvoir ici porter les couleurs de ma patrie.
Mi patria y mis colores siempre aquí y feliz de estar en la...
L'ambition de David Lomeli est de laisser une trace dans la mémoire de son public. Il ne cache pas que la pire chose qui puisse lui arriver serait de laisser les spectateurs indifférents.
Quand on sort...
Quand on sort après un spectacle, un opéra ou une performance, et on parle involontairement de ce spectacle, c'est le plus important pour moi. Quand les gens en parlent en sortant et quand ils changent, c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver. Si les gens disent que quelqu'un a bien ou mal chanté, si les gens sont vraiment émus, s'ils rient ou pleurent, notre but est atteint.
Siente, se ríe, se emociona, llora, entonces estamos al otro lado del río.
Bien que David Lomeli ne soit qu'au début de sa carrière, il y en a d'ores et déjà qui le considèrent comme le successeur de Plácido Domingo. Il a d'ailleurs été le premier Mexicain à remporter il y a 3 ans la victoire absolue dans le concours international qui porte le nom de cet illustre ténor.
C'était donc les faits événements en République tchèque. Le programme en français de Radio Prague se poursuit par sa rubrique régulière de mardi.
Panorama.
Panorama.
République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous pour cette émission. Aujourd'hui, nous sommes avec Denis Dumoulin qui nous vient de Suisse, professeur d'histoire dans un lycée de la ville de Sion et qui est de passage à Prague et qui est assez fasciné. Bonjour monsieur Dumoulin.
Bonjour.
Vous êtes intéressé depuis quelques années à l'histoire des relations entre votre pays, la Suisse, et la République tchèque.
Oui, ça m'intéresse surtout par le nombre des contacts qui ont existé tout au long de l'histoire entre les pays tchèques autrefois et la Tchécoslovaquie plus tard et la République tchèque aujourd'hui. Ça n'a pas quelque chose de très original, on aurait pu trouver avec des choses identiques avec d'autres pays, mais là, il me semble qu'il y a énormément de choses dans plusieurs domaines et à presque chaque époque.
C'est-à-dire que dans ce que vous avez pu, de vos connaissances et dans les recherches que vous avez déjà pu effectuer, faire remonter ces liens à bien avant l'indépendance de la Tchécoslovaquie.
Ah, certainement. Il y a même une très grosse surprise quand on découvre que chez Jules César, il y a une mention des Boyis, c'est-à-dire les ancêtres des Bohémiens et des Tchèques, avec les Helvètes, un siècle avant Jésus-Christ. C'est tout à fait étonnant, et ça se poursuit au Moyen-Âge, et ça se continue à l'époque de la guerre de 30 ans, et à l'époque du 19e. Pratiquement à chaque époque, il y a des contacts, peut-être un peu anecdotiques, mais très réguliers en tout cas.
Notamment avec un personnage sur lequel vous avez écrit quelques lignes en tout cas, qui s'appelle William Ritter.
Alors William Ritter est, semble-t-il, beaucoup plus connu à Prague et en République tchèque que chez nous en Suisse. Il est un de ceux qui, par exemple, a découvert l'Europe centrale, un de ceux qui était de langue française, qui a découvert l'Europe centrale et notamment la musique. Il a fait la première biographie en langue française de Smetana. On le voit aussi être ami de Mahler. Mahler aurait peut-être dédié une de ses symphonies à Ritter. Et puis, il est aussi le personnage qui défend un peintre comme Chvabinsky. Et évidemment que tout cela a fait beaucoup pour la connaissance du monde culturel tchèque dans les pays francophones. En dehors de cela, c'est évidemment un personnage plus discutable sur bien des aspects, notamment sur son antisémitisme. Mais ça fait partie de cette époque du tournant du XXe siècle qui est si riche au point de vue culturel.
Un antisémitisme affiché qui a fait l'objet de débats jusqu'en France où ce personnage de William Ritter a fait l'objet de colloques, il me semble. Plus tard, ces liens entre la Tchécoslovaquie pas encore née et la Suisse sont marqués par quelques événements également ponctuels et notamment d'un discours prononcé par Tomáš Garrigue Masaryk en 1915 à Genève. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, lorsque Masaryk quitte ce qui n'est pas encore la Tchécoslovaquie à l'époque, lorsqu'il quitte Prague en 1914, il passe à Genève pour entrer en contact avec certains Tchèques avec qui il constitue une sorte de groupe de résistance. Et il est prévu d'y rester simplement une journée ou deux. Il va en fait rester plusieurs années en Suisse avec des interruptions. Et à Genève et à Zurich, en 1915, il prononce une conférence à l'occasion du cinquième centenaire de la mort de Jan Hus. Et c'est à cette occasion qu'il va, une des premières fois en tout cas, parler du projet de la constitution d'une Tchécoslovaquie moderne. Et dans l'histoire de la Tchécoslovaquie, la conférence de Genève est considérée comme une des toutes premières étapes. À Genève, on a continué à cultiver le souvenir de cet épisode aussi bien à la Société des Nations que dans les hôtels ou l'hôtel où Masaryk était descendu. Et cela a été une étape au moins aussi importante que celle que l'on trouve avec la déclaration de Washington, par exemple.
Les liens entre Masaryk et la Suisse ne s'arrêtent pas là, puisqu'il a eu également de la famille en Suisse.
Oui, alors sa fille Olga a épousé un médecin genevois, le docteur Révillaud. Ils ont eu deux fils, et c'est ainsi que le président Masaryk avait deux petits-fils genevois qui sont fréquemment venus passer leurs vacances estivales à la propriété de Lagny. Malheureusement, ces deux fils ont connu un destin assez tragique. Ils sont morts les deux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais les liens ainsi de Masaryk avec la Suisse romande étaient au moins aussi importants sur le plan familial que sur le plan historique, par exemple, ou politique.
Est-ce qu'il reste des traces de Masaryk en Suisse ?
Alors, il y a les bâtiments, les salles qui rappellent le souvenir de son passage à Genève. De plus, une rue est dédiée à son nom à Genève. Et il est certain que parmi les Tchèques émigrés en Suisse romande, le souvenir de Masaryk en Suisse romande est resté extrêmement vivace. C'est quelque chose de très important, surtout si l'on pense que Masaryk était le seul homme politique d'Europe centrale qui défendait une idée de démocratie humaniste, fraternelle. C'était tellement rare à l'époque que ça ne pouvait qu'intéresser les Suisses aussi à cette époque-là.
On parlait de Jan Hus il y a un instant, Jean Hus, plus connu sous ce nom en français. Est-ce que ces liens au niveau religieux ont permis aux Suisses et aux Tchèques de renforcer leurs relations? On sait que plusieurs Tchèques sont allés étudier à la faculté de théologie protestante de Bâle. Est-ce que ces liens sont forts?
Alors, il y a des choses assez étonnantes dans l'histoire de Hus. D'abord, il a été prisonnier dans un château qui aujourd'hui se trouve en Suisse avant d'être exécuté à Constance, dans le château de Gottlieben. Et puis, bien entendu, les Hussites, persécutés ou chassés de Bohême, sont venus assez fréquemment et dans tous les pays d'Europe occidentale, y compris à Bâle. Les frères Moraves également sont présents un peu partout. Il y a des rencontres documentées qui montrent que des missionnaires ou des sortes de porteurs du message hussite avaient une action même dans les pays suisses. Il faut savoir que à l'époque de la Réforme, entre autres, les positions en matière religieuse ne sont pas aussi fixes et aussi fermes qu'on pourrait l'imaginer. Il y a des régions aujourd'hui considérées comme catholiques qui ont passé au protestantisme pendant plusieurs années. Il y a énormément de prédicateurs d'un peu toutes les obédiences qui sont en Suisse à ce moment-là. Et le hussitisme, et ainsi que les frères Moraves et toutes les dénominations religieuses tchèques, on en trouve des traces aussi bien à Bâle qu'en Suisse romande, qu'un peu partout en Suisse, même si encore une fois c'est très ponctuel, c'est très anecdotique, mais en tout cas ça existe.
Denis Dumoulin, nous sommes obligés de nous arrêter là pour cette semaine, mais ce que je vous propose, c'est de nous retrouver très prochainement pour aborder des points peut-être plus modernes de cette histoire des relations entre la République tchèque et la Suisse.
Très volontiers.
C'était donc le panorama, et c'est avec la fin de cette rubrique régulière que se termine notre programme en français d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis au revoir. Nasrallah.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kilohertz, at 1700 hours on 5930 kilohertz, at 1800 hours on 5930 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 kilohertz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kilohertz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kilohertz and at 2230 hours on 7355 kilohertz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kilohertz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kilohertz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kilohertz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100 hours.